Bonsoir et merci d'être venus ou revenus aussi nombreux pour cette deuxième séance ou cette deuxième promenade shakespearienne intitulée Shakespeare dans l'atelier romanesque et qui aujourd'hui aura pour thème du grotesque au sublime et retour sans doute. Alors, je représente Florence Legrette qui est professeure à Paris 4 qui est donc notre voisine et qui est une éminente spécialiste, vous l'entendrez, de théâtre romantique et de théâtre tout court. Dominique Bois-Blanquet qui s'est chargé de composer le bouquet de ces promenades en collaboration avec Florence et qui préside la Société française Shakespeare. Jacques Bonafé, je ne l'ai pas présenté hier, je ne vous le présenterai pas aujourd'hui. Il se présentera très bien tout seul, ainsi que notre camarade Dominique Parent, qui nous a fait l'amitié aujourd'hui de nous rejoindre pour une sorte de passation de témoin shakespearienne en direct avec nous. Alors aujourd'hui, comme hier, notre promenade va suivre un ordre légèrement chronologique, mais pas seulement. Il est thématique aussi, et cette promenade tient aussi un peu parfois du jeu de piste. Nous nous sommes amusés nous-mêmes à le constater à mesure que nous lisions et relisions des textes. Certains sont très shakespeariens, très explicites, et ne cherchent pas midi à 14h, et demandent à peine à être commentés. Pour d'autres, parfois, les échos shakespeariens sont beaucoup plus atténués, beaucoup plus mystérieux, mais il nous a paru amusant parfois de choisir quelques extraits de textes qu'on n'aurait pas cru shakespearien au premier abord. Et Dominique a un œil particulièrement aigu et a déniché quelques perles qui, nous l'espérons, vous surprendront. Néanmoins, pas de meilleur diapason shakespearien que Voltaire, évidemment. Voltaire, le grand introducteur, Voltaire qui s'en est mordu les doigts quelques années plus tard. Et c'est sur ces doigts mordus de Voltaire que nous commencerons pour finir sur d'autres doigts d'ici une petite heure et demie environ. Mais je n'en dis pas plus pour l'instant. Je cède la parole à Dominique.
Merci, Daniel. Donc hier, si vous étiez avec nous, nous avons vu les poètes et les artistes du 19e s'identifier à Hamlet et lui faire incarner, non seulement au 19e, mais au 20e, à chaque époque, le mal du siècle. Aujourd'hui, nous allons voir Shakespeare, plutôt modéré, qui a été longtemps considéré en Angleterre comme le pilier de l'establishment, devenir en France le champion de toutes les révoltes, et en particulier des révoltes contre les règles. Voltaire, comme le dit Daniel, s'est vite mordu les doigts d'avoir introduit le loup dans la bergerie classique, ou bien, pour parler comme Chateaubriand, d'avoir ouvert la porte à la médiocrité, d'avoir aidé, comme il le disait lui-même, à placer le monstre sur l'autel. Monsieur de Voltaire avait fait de l'Angleterre, alors assez peu connue, une espèce de pays merveilleux où il plaçait les héros, les opinions et les idées dont il pouvait avoir besoin. Alors, dans son appel à toutes les nations, dans son appel à toutes les nations de l'Europe, des jugements d'un écrivain anglais, en 1761, il se demande comment expliquer l'engouement anglais.
Les bourgeois de Londres trouvèrent dans les tragédies de Shakespeare tout ce qui peut plaire à des curieux. Les gens de la cour furent obligés de suivre le torrent. Comment ne pas admirer ce que la plus saine partie de la ville admirait ? Il n'y eut rien de mieux pendant 150 ans. L'admiration se fortifia et devint une idolâtrie.
Alors, 15 ans plus tard, dans sa fameuse lettre à D'Argental, nous sommes en juillet 1776, il se souvient d'avoir le premier montré aux Français quelques perles que j'avais trouvées dans son énorme fumier.
Mais ce qu'il y a d'affreux, c'est que le monstre a un parti en France. Et pour comble de calamité et d'horreur, c'est moi qui autrefois parlais de ce Shakespeare. C'est moi qui le premier montré aux Français quelques perles que j'avais trouvées dans son énorme fumier. Je ne m'attendais pas que je servirais un jour à fouler aux pieds les couronnes de Racine et de Corneille pour en orner le front d'un histrion barbare. Tâchez, je vous prie, d'être aussi en colère que moi, sans quoi je me sens capable de faire un mauvais coup.
Alors au mieux, à l'époque et même après, Les admirateurs de Shakespeare ont une appréciation mitigée. Ils lui trouvent des fautes graves, des traits de génie, d'accord, mais quand même beaucoup de fautes. Même Stendhal, qui est un de ses admirateurs parmi les premiers, refusait toute une part de Shakespeare parce qu'il le trouvait trop violent. Il trouvait qu'il y avait trop d'horreur dans une pièce, par exemple, comme Titus Andronicus, une horreur qui lui faisait mal. Et il considérait que Hamlet était un couillon inactif. Il a même envisagé à un moment de réécrire, plus qu'envisagé, il avait commencé à réécrire Hamlet comme on aurait dû le faire. Alors, Chateaubriand avouera dans son essai sur la littérature anglaise, publié en 1836, que j'ai mal jugé Shakespeare autrefois.
J'ai mesuré autrefois Shakespeare avec la lunette classique, instrument excellent pour apercevoir les ornements de bon ou de mauvais goût, les détails parfaits ou imparfaits, mais microscope inapplicable à l'observation de l'ensemble. Le foyer de la lentille ne portant que sur un point et n'embrassant pas la surface entière. Toutefois, si jadis on resta trop en deçà du romantique, maintenant on a passé le but. Chose ordinaire à l'esprit français, qui sautille du blanc au noir comme le cavalier au jeu d'échecs. Le pis est que notre enthousiasme actuel pour Shakespeare est moins excité par ses clartés que par ses tâches. Nous applaudissons en lui ce que nous sifflerions ailleurs. Et toi, Shakespeare, je te suppose revenant au monde, et je m'amuse de la colère où te mettraient tes faux adorateurs. Tu t'indignerais du culte rendu à des trivialités dont tu serais le premier à rougir, bien qu'elles ne fussent pas de toi, mais de ton siècle. Tu déclarerais incapable de sentir tes beautés, des hommes capables de se passionner pour tes défauts, capables surtout de les imiter de sang-froid au milieu des mœurs nouvelles.
Alors ces hommes capables de se passionner pour les défauts de Shakespeare hein, et de les imiter de sang-froid au milieu de mœurs nouvelles, ce seront les romantiques. Les romantiques qui voient dans la sauvagerie, dans la démesure, dans la trivialité même shakespearienne, un moyen de revivifier la littérature classique qu'on joue encore à la Comédie française dans les années 1820, les tragédies néoclassiques qui s'écrivent. Ils voient dans Shakespeare un moyen de revivifier ce théâtre officiel par une veine populaire. Et il faut se souvenir qu'à cette époque-là, il y a deux sortes de théâtres dans les années 1820 en France. Il y a les théâtres officiels où on joue les grands genres. C'est l'opéra, la comédie française, l'opéra comique, l'Odéon. Et puis il y a les théâtres populaires, les théâtres où on joue le mélodrame, la féerie, le vaudeville. Et les premières adaptations de Shakespeare dans les années 1820 qui commencent déjà à frémir, on les trouve sur ces théâtres populaires où on joue aussi le mélodrame. Et il y a une proximité pour les contemporains entre le style de Shakespeare et le style du mélodrame. C'est pourquoi il n'est pas étonnant qu'un des passeurs, avant Stendhal, aussi de manière contemporaine à Stendhal, mais il a commencé dès le tout début du XIXe siècle, dès l'Empire, un des passeurs de Shakespeare en France, c'est aussi un des grands amateurs de mélodrames, c'est Nodier, Charles Nodier, qui préfacera le théâtre complet de Pixérécourt, le grand auteur de mélodrames du début du XIXe siècle, et qui admire énormément Shakespeare. Il en dit dès 1801, « Il est grand comme la nature et sauvage, inculte, inégal comme elle, sans égard pour les lois du théâtre, pour les préceptes du goût. » Et en 1821, quand paraîtra cette édition dont on a parlé hier, l'édition de la traduction de Shakespeare par Le Tourneur, qui est republiée par Guizot en 1821, dans la collection des chefs-d'œuvre des théâtres étrangers, Nodier saluera cette parution en disant « de Shakespeare, qu'il est ce génie grand comme la nature, inégal comme elle, et comme admirable jusque dans ses monstruosités. » Du reste, c'est Nodier qui fait connaître Shakespeare à Victor Hugo, lors d'une circonstance tout à fait inattendue, mais dont Hugo se souviendra longtemps après. C'est à Reims, en 1825, au moment du couronnement de Charles X, que, en pleine cérémonie de couronnement, un ami de Nodier lui passe un livre qui est Le Roi Jean, un exemplaire du Roi Jean, après quoi toute la soirée, la joyeuse bande d'amis lira et commentera ce texte. Voici comment, donc, rétrospectivement, Hugo se souvient d'avoir découvert Shakespeare.
La première fois que j'ai entendu le nom de Shakespeare, C'est de la bouche de Charles Nodier. Ce fut à Reims en 1825 pendant le sacre de Charles X. Personne alors en France ne prononçait ce nom Shakespeare tout à fait sérieusement. La raillerie de Voltaire avait force de choses jugées. Madame de Staël, très noble esprit, avait adopté l'Allemagne, la grande patrie de Kant, de Schiller, de Beethoven. Chateaubriand tenait pour Racine énergiquement. Ducis était en plein triomphe. Ducis avait réussi à faire quelque chose de Shakespeare. Il l'avait rendu possible. Il en avait extrait des tragédies.
À propos de ces tragédies extraites par Ducis de Shakespeare, je crois que c'est Thierry Monnier qui a écrit quelque part qu'en effet, le vieux gaufrier de la tragédie avait survécu au temps révolutionnaire et que le grand acteur Talma n'avait qu'à y fabriquer ses gaufres et à les écouler au public. Et que voilà, ma foi, c'est comme ça qu'un genre peut survivre à travers toute une génération, alors même qu'il est mort-vivant. Mais 2 ans déjà avant la découverte, sous le manteau et sous les fastes du couronnement de Shakespeare par Victor Hugo, Stendhal avait déjà engagé la bataille pour sa part. Il l'a menée en deux fois, et puis il s'est éclipsé pour mener sa propre voie. Stendhal, en 1823, 2 ans avant le couronnement de Charles X, commence à opposer Racine et Shakespeare, commence à composer des libelles où il veut prendre la défense de ce qu'on appelle parfois encore à l'époque le romanticisme contre un classicisme outré et au fond décadent. Stendhal est depuis déjà plusieurs années un très grand admirateur. Ce n'est pas encore un auteur très connu. C'est un critique d'art, c'est un homme de goût, c'est un homme qui aime la beauté pour elle-même. Ce n'est pas encore un romancier. Dans une certaine mesure, son Racine et Shakespeare, qui deviendra un peu la tarte à la crème des dissertations jusque dans les années 50 par la suite, son Racine et Shakespeare, avant de devenir lui-même un classique, c'est d'abord l'œuvre d'un homme qui, en réfléchissant aux sources de sa propre admiration et de ses propres besoins esthétiques, va en fait finir par forger, 20 ans ou 30 ans avant Baudelaire qu'il prépare, le concept de modernité esthétique. Mais Stendhal commence par engager le terrain, beaucoup plus discrètement, sur la question des unités dramatiques, les unités, les fameuses unités de lieu, de temps et d'action, unités que certains, dès le XVIIe siècle, et à tort, faisaient remonter à Aristote. Ces unités de lieu et de temps, Stendhal les critique très vivement dans son Racine et Shakespeare, pour n'en retenir que l'unité d'action. Il ouvre par là la voie aux grands romantiques, à commencer par Hugo. La préface de Cromwell, nous en parlerons dans un instant, suit le Racine et Shakespeare de quelques années, 1827. Mais l'unité d'action, Stendhal, après avoir admiré Shakespeare et avoir découvert à travers son admiration que finalement l'imitation des maîtres doit conduire tout artiste à découvrir et à constituer son propre présent, Stendhal, curieusement, va renoncer à toute velléité, à toute ambition dramatique pour en fait s'inventer dès l'année suivante comme dramaturge. En 1823, il cherche encore sa voie, il est en train d'inaugurer, et c'est avec Racine et Shakespeare qu'il s'interpelle peut-être lui-même à 40 ans passés en parlant à la jeunesse de France.
Qui vient de siffler Shakespeare.
Ah, bien sûr, oui. Les jeunes romantiques à l'époque sont tous ultra-royalistes. Ce n'est pas par hasard, justement, que Shakespeare a été découvert au cours du couronnement de Charles X.
Eh bien, je m'adresse sans crainte à cette jeunesse égarée qui a cru faire du patriotisme et de l'honneur national en sifflant Shakespeare parce qu'il fut anglais. Comme je suis rempli d'estime pour les jeunes gens laborieux, l'espoir de la France, je leur parlerai le langage sévère de la vérité. Toute la dispute entre Racine et Shakespeare se réduit à savoir si, en observant les unités de lieu et de temps, on peut faire des pièces qui intéressent vivement des spectateurs du XIXe siècle, des pièces qui les fassent pleurer et frémir ou, en d'autres termes, qui leur donnent des plaisirs dramatiques au lieu des plaisirs épiques, qui nous font courir à la 50e représentation du paria ou de régulus. Je dis que l'observation des deux unités de lieu et de temps est une habitude française, habitude profondément enracinée. Habitude dont nous nous déferons difficilement parce que Paris est le salon de l'Europe et lui donne le ton. Mais je dis que ces unités ne sont nullement nécessaires à produire l'émotion profonde et le véritable effet dramatique. Le hasard a voulu que ce soit vous, Parisiens, qui soyez chargés de faire les réputations littéraires en Europe. Tous les écrivains de bonne compagnie, non seulement de la France, mais de toute l'Europe, vous ont flatté pour obtenir de vous en échange un peu de renom littéraire. Et ce que vous appelez sentiment intérieur, évidence morale, n'est autre chose que l'évidence morale d'un enfant gâté, en d'autres termes, l'habitude de la flatterie. Voilà précisément où nous en sommes en France pour Shakespeare. Il contrarie un grand nombre de ces habitudes ridicules que la lecture assidue de l'harpe et des autres petits récteurs musqués du XVIIIe siècle nous ont fait contracter. Ce qu'il y a de pire, c'est que nous mettons de la vanité à soutenir que ces mauvaises habitudes sont fondées sur la nature.
Pour Stendhal, des pièces doivent faire pleurer, dit-il, et frémir, ou en d'autres termes, donner des plaisirs dramatiques. Pleurer, frémir, cela fait songer évidemment à Aristote, à sa poétique. La tragédie doit faire horreur ou pitié. Elle doit susciter la crainte ou la pitié pour entraîner la catharsis du spectateur. Mais Stendhal, curieusement, ne parle pas ici simplement du plaisir tragique. Il parle du plaisir dramatique, comme s'il laissait entendre, finalement, que la véritable doctrine dramatique devait viser à désormais, analyser l'essence du théâtre au-delà des genres et au-delà de la simple partition des genres. Les unités de lieu, de temps, sont solidaires d'une certaine unité de ton aussi, ou d'unité de goût, qui, le dit Stendhal, non sans un certain clin d'œil, sont profondément enracinés, évidemment. Shakespeare, finalement, le Shakespeare de Stendhal est l'instrument d'un grand décentrement. Il va déraciner, pour le coup, il va déraciner le classicisme français et l'inviter à voguer, peut-être en quête d'un autre centre. Cet autre centre, le romantisme français, finalement, refusera de le fixer clairement. Cet autre centre se jouera entre pôles et dans le mouvement entre deux pôles qui sacrifieront délibérément à la bigarrure et à l'invention toute unité de goût. Le grand porte-parole de cette bigarrure, celui qui s'en fera le héros, avec toutes les orthographes du terme d'ailleurs, c'est Hugo en 1827 dans sa formidable préface de Cromwell qui, si elle n'introduit peut-être pas des idées nouvelles, le fait néanmoins avec un éclat extraordinaire. Là où Stendhal avait plus de 40 ans, Hugo en a 25 et lui va introduire non seulement le loup mais le corps du loup, le corps organique du loup dans la bergerie.
La muse purement éthique des anciens n'avait étudié la nature que sous une seule face, rejetant sans pitié de l'art presque tout ce qui, dans le monde soumis à son imitation, ne se rapportait pas à un certain type du beau. Tout dans la création n'est pas humainement beau. Le laid existe à côté du beau, le difforme près du gracieux, le grotesque au revers du sublime, le mal avec le bien, l'ombre avec la lumière. Le grotesque antique est timide et cherche toujours à se cacher. Dans la pensée des modernes, au contraire, le grotesque a un rôle immense, il y est partout. D'une part, il crée le difforme. Et Laurie, c'était à toi.
Oui, c'est pas grave.
Je me suis... parce que j'étais lancé sur la bigarrure.
C'est pas grave.
On peut rembobiner quand même.
Au de lait de la lumière, j'ai quitté les unités de
temps. Ça ne fait qu'illustrer.
T'as déjà vu un camarade dire « c'est pas à toi, c'est à moi !»
Redescends, s'il te plaît, Victor, tu redescends ici.
Donc qu'est-ce qu'on fait? On rembobine et on y retourne vite alors peut-être.
On rembobine.
J'ai pas osé. Il
est parti.
Ils sont peut-être mis d'accord. Avant, j'ai pas entendu.
Chronologiquement, j'étais dans la pompe.
Donc, excusez, alors nous reprenons donc, Daniel, hein, par le rejet alors, des unités, c'est ça?
C'est ça.
Ah non, justement, oui.
Alors, moi, si tu veux, je te relance. Je vais te relancer. L'Aristote de Stendhal est un Aristote qui s'intéresse aux effets de la tragédie ou du dramatique. L'Aristote de Hugo, c'est l'Aristote du créateur qui considère le texte dramatique en particulier, comme un organisme. Pour finalement, la réflexion sur l'unité théâtrale chez Aristote, quand on relit sa poétique, elle provient de la considération du texte comme corps vivant organique, et notamment comme corps avec un début, un milieu et une fin. C'est ce qui fait l'unité, par exemple, d'Homère, avec son Iliade, qui, malgré ses 24 chants, ne parle que d'une seule chose, qui constitue l'unité de l'organisme épique, par opposition aux misérables poètes, dit Aristote, qui, eux, découpent les 12 chants d'Hercule en tranches et qui nous refilent cette brochette comme s'il y avait unité organique dans cette brochette. Voilà. Chez Hugo, lui, sait que le poème est unité organique, est unité organique vivante, est unité organique singulière, s'il faut qu'elle reste vivante. Ne pas respecter cette unité-là, prétendre la faire entrer dans des unités prédéterminées, c'est la mettre à mort.
Bizarre contradiction. Le théâtre grec, tout asservi qu'il était à un but national et religieux, est bien autrement libre que le nôtre, dont le seul objet, cependant, est le plaisir, et si l'on veut, l'enseignement du spectateur. C'est que l'un n'obéit qu'aux lois qui lui sont propres, tandis que l'autre s'applique des conditions d'être parfaitement étrangères à son essence. L'un est artiste, l'autre est artificiel. L'unité de temps n'est pas plus solide que l'unité de lieu. Toute action a sa durée propre, comme son lieu particulier. Verser la même dose de temps à tous les événements, appliquer la même mesure sur tout, on rirait d'un cordonnier qui voudrait mettre le même soulier à tous les pieds. Croiser l'unité de temps et l'unité de lieu comme les barreaux d'une cage et y faire pédantesquement entrer, de par Aristote, tous ces faits, tous ces peuples, toutes ces figures que la Providence déroule à si grande masse dans la réalité, c'est mutiler hommes et choses, c'est faire grimacer l'histoire. Disons mieux, tout cela mourra dans l'opération. Et c'est ainsi que les mutilateurs dogmatiques arrivent à leur résultat ordinaire. Ce qui a été vivant dans la chronique est mort dans la tragédie. Voilà pourquoi, bien souvent, la cage des unités ne renferme qu'un squelette. L'unité de Shakespeare ne sera donc pas l'unité de Corneille. Pitié !
Du reste, l'unité de Corneille, elle lui a posé problème à Corneille, parce que Corneille lui-même s'est, au bout du compte, accepté la loi des unités de lieu et de temps, subordonné à l'unité d'action, mais dans son discours des trois unités, en 1660, il revenait encore sur la question en disant que, selon lui, l'unité de lieu étant subordonnée à l'unité d'action, on pouvait tout à fait imaginer mettre sur une scène Paris d'un côté et Rouen de l'autre, évidemment, Jean Corneille ne choisissait pas la ville de Rouen au hasard, parce qu'on peut aller de Paris à Rouen en 24 heures. Donc, pour lui, ça n'aurait pas dû poser problème. Alors, comment les romantiques font-ils concrètement avec cette question des unités? Car, même s'ils veulent en finir, non pas avec l'unité d'action qui continue à faire l'unanimité, mais avec les unités de lieu et de temps qui, comme l'a dit Daniel, n'y sont pas nécessairement subordonnées chez Aristote, ils sont quand même obligés de faire avec les habitudes des scénographes, enfin des peintres de théâtre. Or, dans les années 1820-1830, les scènes sont lourdement architecturées et on ne peut pas, comme ça, changer les habitudes du jour au lendemain. C'est pourquoi la plupart d'entre eux adoptent finalement une esthétique du compromis qui consiste à changer de lieu et de temps à chaque acte. Possibilité étant laissée aux peintres de théâtre de changer le décor pendant l'entracte. C'est ce qui fait que dans Hernani, on passe de Saragosse au Mont d'Aragon à Aix-la-Chapelle. sans difficulté. Quant à l'unité de temps, eh bien c'est pareil, elle peut être rompue à l'échelle de l'acte, ce qui fait que dans Hernani toujours, on peut passer d'un acte à un autre en laissant s'écouler une nuit, quelques jours ou 6 mois. Et ça, c'est assez shakespearien, puisque par exemple, dans le conte d'hiver, on laisse passer 10 ans entre chaque acte.
On peut s'habiller.
Voilà.
16 ans.
Ce qui ne choquait pas le public élisabétain. Du reste, les romantiques n'ont pas été les premiers à le faire. Déjà, un grand auteur de mélodrame dont je parlais tout à l'heure, Ducange, dans 30 ans ou la vie d'un joueur, pièce qui date de 1827, donc la même année que la préface de Cromwell, avait adopté une dramaturgie en 3 actes où il y avait justement 10 ans qui s'écoulaient entre chacun des actes. Ça, au total, ça donne 30 ans ou la vie d'un joueur. Dans le genre de la féerie, genre très populaire, hein, qu'on jouait sur les petits théâtres, on pouvait d'un coup de baguette magique passer de Paris à Bagdad. Mais évidemment, le décor, là, était tout à fait léger. C'était juste une toile peinte qui permettait évidemment de changer de décor à toute vitesse. Donc vous voyez, c'est sur les petites scènes populaires, hein, des théâtres des boulevards, qu'avaient déjà été malmenées les unités de lieu et de temps. Ce que font les romantiques, c'est finalement incorporer cette esthétique-là, shakespearienne aussi, sur les grandes scènes. Autre entorse à la règle classique très importante et dont Hugo fait la théorie dans la préface de Cromwell, c'est le mélange du grotesque et du sublime. Alors ce mélange du grotesque et du sublime, c'est pareil, on le trouvait déjà sur les scènes du mélodrame, avec des personnages grotesques, difformes, comme les traîtres de mélodrame, et puis des personnages sublimes, comme les justiciers de mélodrame, qui punissaient les traîtres, ou les pères nobles de mélodrame, qui étaient escroqués par le traître, mais qui étaient sauvés par le justicier. Donc cette esthétique-là, du mélange du grotesque et du sublime, Hugo revendique pour qu'elle ait droit de citer dans la grande littérature. Et au fond, le texte qu'on va entendre, qui explique ce que Hugo entend par ce mélange du grotesque et du sublime, il nous fait comprendre que l'esthétique romantique de leur mélange, c'est une esthétique de la totalité qui prétend pouvoir tout représenter ensemble sur scène sans tenir compte des hiérarchies sociales entre personnel dramatique de la tragédie et personnel dramatique de la comédie. Et au fond, si vous écoutez bien le texte qu'on va entendre, vous allez voir que sa conception du mélange du grotesque et du sublime, c'est une conception réaliste de la littérature, hein, ce qui prouve qu'il n'y a pas du tout d'opposition entre romantisme et réalisme. Et on peut dire que le grotesque, c'est une des premières formes au théâtre de réalisme.
Tout dans la création n'est pas humainement beau. Le laid y existe à côté du beau. Le difforme près du gracieux. Le grotesque au revers du sublime, le mal avec le bien, l'ombre avec la lumière. Le grotesque antique est timide et cherche toujours à se cacher. Dans la pensée des modernes, au contraire, le grotesque a un rôle immense. Il y est partout. D'une part, il crée le difforme et l'horrible, de l'autre, le comique et le bouffon. Il attache autour de la religion 1000 superstitions originales, autour de la poésie 1000 imaginations pittoresques. C'est lui qui sème à pleine main dans l'air, dans l'eau, dans la terre, dans le feu, ces myriades d'êtres intermédiaires que nous retrouvons tout vivants dans les traditions populaires du Moyen-Âge. En effet, dans la poésie nouvelle, tandis que le sublime représentera l'âme telle qu'elle est, épurée par la morale chrétienne, le grotesque jouera le rôle de la bête humaine. Le premier type dégagé de tout alliage impur aura en apanage tous les charmes, toutes les grâces, toutes les beautés. Il faut qu'il puisse créer un jour Juliette, Desdémone, Ophélia. Le second prendra tous les ridicules, toutes les infirmités, toutes les laideurs. Dans ce partage de l'humanité et de la création, c'est à lui que reviendront les passions, les vices, les crimes. C'est lui qui sera luxurieux, rampant, gourmand, avare, perfide, brouillon, hypocrite. C'est lui qui sera tour à tour Iago, Tartuffe, Basile, Polonius, Harpagon, Bartholo, Falstaff, Scapin, Figaro. Le beau n'a qu'un type, le laid en a 1000. Le moment est venu où l'équilibre entre les deux principes va s'établir.
Le moment est venu où l'équilibre entre les deux principes va s'établir. Un homme, un poète roi, poeta soverano, comme Dante le dit d'Homère, va tout fixer. Les deux génies rivaux unissent leur double flamme et de cette flamme jaillit Shakespeare. Nous voici parvenus à la sommité poétique des temps modernes. Shakespeare, c'est le drame, et le drame qui fond sous un même souffle le grotesque et le sublime, le terrible et le bouffon, la tragédie et la comédie, le drame et le caractère propre de la troisième époque de poésie de la littérature actuelle. Tantôt sublime dans Ariel, c'est donc une des surprises, une des suprêmes beautés du drame que le grotesque. Il n'en est pas seulement une convenance, il en est souvent une nécessité. Grâce à lui, point d'impressionnant, d'impression monotone, tantôt il jette du rire, tantôt de l'horreur dans la tragédie. Il fera rencontrer l'apothicaire à Roméo, les trois sorcières à Macbeth, les fossoyeurs à Hamlet. Parfois, enfin, il peut, sans discordance, comme dans la scène du roi Lear et de son fou, mêler sa voix criarde aux plus sublimes, aux plus lugubres, aux plus rêveuses musiques de l'âme.
Alors, dans cette préface, donc, Hugo cite, entre autres, la scène des fossoyeurs de Hamlet, où se mêlent le grotesque et le sublime, comme l'exemple de ce qui doit inspirer le nouvel art dramatique. Vigny va se servir de cette préface pour exposer sa propre théorie du mélange des genres et des styles dans Le Mort de Venise. Alors, le coup d'envoi de la révolution romantique sur scène, ça a été le Henri III de Dumas, Henri III et sa cour. Le combat suivant, 3 mois après, avant la fameuse bataille d'Hernani, Hugo a laissé sa place à Vigny, ça sera donc la bataille du Mort de Venise. Alors, derrière Vigny, toute la jeune génération monte au front et se met en ordre de bataille. Pour Vigny, il s'agit de rééduquer le public français. Et pour cela, il choisit une œuvre qui est déjà assez connue, parce qu'on l'a représentée à diverses reprises à Paris, Et il pense que cela va lui permettre de montrer les mérites des nouvelles modes d'écriture dramatique. On va beaucoup vanter sa fidélité au texte original. La première fois, dira-t-on, qu'on entend vraiment Shakespeare. En fait, il fait beaucoup de concessions au goût, aux usages français. Il traduit en alexandrin assez majestueux. Il garde toutefois les métaphores de Shakespeare et il y a même des audaces. Par exemple, il va conserver le mouchoir de Desdémone que jusque-là on avait trouvé trop prosaïque. Ducis l'avait remplacé, je crois, par un bandeau de diamants. Et d'ailleurs, on aura beaucoup de mal à obtenir de Mademoiselle Mars qu'elle veuille bien prononcer le mot mouchoir sur la scène. Il garde aussi l'ivresse de Cassio, il garde l'oreiller, toutes ces choses dont il faisait horreur. Mais il supprime quand même les grossièretés, ce qu'il appelle aussi les trop lentes explications et tous les passages comiques. Alors Hugo donc a accepté de faire passer le mort avant lui sur la scène du français et il rapporte le lendemain à Sainte-Beuve que Othello a réussi autant qu'il le pouvait. En fait, c'est un succès assez mitigé et grâce à nous, dit-il, et lui-même l'a soutenu par des applaudissements frénétiques. Il le reprochera par la suite à Vigny, dont il estime qu'il n'est pas assez reconnaissant. L'acteur qui joue le rôle d'Othello note dans son journal, alors on voit que l'atmosphère effectivement est assez mouvementée, « Grand monde, grand tapage, bruit, confusion, rire, quolibets, sifflets, applaudissements, désapprobation et enthousiasme. Dans le clan ennemi, on dénonce l'Attila Shakespeare qui s'est emparé de la tragédie nationale. » Et on a un récit sur le vif par Dumas dans ses mémoires de cette fameuse bataille du Mort.
Cette future représentation d'Othello faisait grand bruit. Nous connaissions tous la traduction de Vigny, et quoique nous eussions mieux aimé être soutenus par des troupes nationales et par un général français que par ce poétique comte d'Authier, nous comprenions qu'il fallait accepter toutes les armes qu'on nous apportait contre nos ennemis, du moment surtout où ces armes sortaient de l'arsenal de notre grand maître à tous, Shakespeare. Il faut avoir vu la rage des hommes qui, depuis 30 ans, accaparaient le théâtre français pour se faire une idée des rugissants anathèmes qui se lançaient contre nous. Ces messieurs ne semblaient connaître Shakespeare que par ce qu'en avait dit Voltaire et Schiller, que par ce qu'en avait dit M. Petitot. Mais cette fois, ce n'était plus Shakespeare corrigé, châtré,
Et mon dé que le public allait voir, c'était, sauf ce qu'il devait nécessairement perdre de sa taille à la traduction, le géant qui avait rempli à lui seul le 16e, le 17e et le 18e siècle de l'Angleterre. Si ces sacrilèges exhibitions se continuaient, qu'allait dire Zahir en face de Desdémone, Ninus en face d'Hamlet, les deux gendres en face du roi Lear, pas les faibles contrefaçons de la nature et de la vérité. Il leur allait donc falloir ou rentrer dans le néant ou soutenir la comparaison. Hein ? Aussi, j'ouvre un journal au hasard et je lis « On arrivait à la représentation du mort de Venise comme à une bataille dont le succès devait décider d'une grande question littéraire. Il s'agissait de savoir si Shakespeare, Schiller et Goethe allaient chasser de la scène française Corneille, Racine et Voltaire. » C'était d'une mauvaise foi adorable et d'un venin charmant. Grâce à cette idée de l'expulsion des maîtres, on montait la tête aux bourgeois, et la question entièrement déplacée donnait par la forme même raison à ceux qui la posaient. Eh, mon Dieu, non, on ne chassait pas plus les maîtres de l'art de leur Parnasse séculaire que la bourgeoisie ne chassait l'aristocratie des positions que depuis le commencement de la monarchie, l'aristocratie occupait. Non, on ne disait pas aux grands seigneurs « Retirez-vous et cédez-nous la place ». On leur disait « Laissez-nous aspirer au même droit que vous, si nous avons des titres à ces droits. L'Olympe païen est assez grand pour 6000 dieux. Pressez-vous un peu, dieux de la vieille France, et laissez entrer les dieux scandinaves et germains. La religion de Molière, de Corneille et de Racine sera toujours la religion de l'État, mais que la liberté des cultes soit proclamée !» Mais eux, étroits et exclusifs, au lieu d'accueillir ces dieux nouveaux, au lieu de les acclamer dans ce qu'ils avaient de céleste et de les critiquer dans ce qu'ils avaient de vulgaire, eux, proscrits politiques d'hier, ils voulaient faire de la proscription littéraire aujourd'hui. C'est incroyable, étrange, inouï, et cependant, c'était comme cela. Malgré une violente opposition, Othello réussit. Pour la première fois, on entendait les rugissements de la jalousie africaine. Et l'on s'émut, l'on frissonna, l'on frémit aux sanglots de cette terrible colère.
Alors Flaubert dira de Vigny que c'est un talent plaisant et distingué. Et puis il était de la bonne époque, il avait la foi. Il traduisait du Shakespeare, engueulait le bourgeois, faisait de l'historique. On a eu beau se moquer de tous ces gens-là, ils domineront pour longtemps encore tout ce qui suivra. Et tous finissent par être académiciens, ô ironie.
Alors un autre ardent défenseur de Shakespeare, c'est Théophile Gautier. Théophile Gautier qui aime surtout chez Shakespeare sa fantaisie, à la fois ses personnages fantastiques, comme la reine Mab, comme Caliban, comme Ariel, ses personnages truculents comme Falstaff, et sa liberté de ton. Du reste, dans ses critiques, bien souvent, il l'appelle à ce qu'on joue davantage Shakespeare, mais aussi à ce qu'on joue davantage des auteurs d'inspiration shakespearienne qui ne sont pas joués comme Musset. Et dans ses critiques littéraires, assez souvent, quand il sort d'un mauvais vaudeville, il dit « Mais au lieu de nous montrer ça, montrez-nous donc Musset, qu'on ne joue pas, qui écrit des pièces pour la lecture, avec un style assez shakespearien. » Il réclame, Gautier, qu'on joue les Caprices de Marianne pour leur fantaisie shakespearienne, ou toutes ces autres comédies et proverbes, et c'est toujours cet adjectif shakespearien qui revient. Gautier étant tout à fait conscient du fait qu'il faudrait pour cela pouvoir avoir une réforme scénographique, celle dont je parlais tout à l'heure, une réforme scénographique qui permette d'alléger les décors afin de changer les scènes assez rapidement et de pouvoir passer d'un lieu à l'autre sans avoir à défaire toute l'architecture de scène. Vous savez que quand Musset sera finalement joué, c'est le cas par exemple pour les Caprices de Marianne qui est joué dès 1851. On a beaucoup joué Musset de son vivant, ce qu'on ne dit parfois, ce qu'on ne sait pas parfois. Mais Musset réécrira une version de scène en faisant un décor unique, un décor de rue où on peut avoir à la fois le jardin de Marianne, l'auberge, la rue, mais où on n'a pas les intérieurs, les scènes d'intérieur, parce que là on ne peut pas alterner les scènes sur un décor très architecturé comme l'est celui qu'il conçoit lui-même pour cette version de scène. Mais ce qu'il espère, c'est qu'un jour on pourra jouer Musset ou Shakespeare sans décor ou avec des décors extrêmement légers. Gautier rend aussi hommage au théâtre de Shakespeare dans Mademoiselle de Maupin, où il est fait directement allusion. On le lira la semaine prochaine. Où il est fait directement allusion à Comme il vous plaira, sur le thème de la beauté androgyne. Et puis alors, il adore le personnage de Falstaff. On va parler maintenant de ce personnage qu'on trouve chez Shakespeare dans Henri IV et dans Les Joyeuses Commères de Windsor. Ce personnage de grand seigneur ruiné, voulant quand même conserver sa superbe, mais réduit aux rodomontades, compagnon de débauche du futur roi d'Angleterre Henri V. Et il commence à introduire ce personnage à l'intérieur d'une nouvelle fantastique, une nouvelle sous-titrée conte fantastique qui s'appelle La Cafetière. C'est le récit d'un séjour en Normandie de quelques amis, séjour au cours duquel, la nuit, cherchant à s'endormir, il voit les personnages de la tapisserie s'animer et les personnages des tableaux des ancêtres s'animer eux aussi, sortir de leur cadre et finalement se servir du café à partir d'une cafetière peinte qui elle aussi sort de son cadre, attendre les 12 coups de minuit pour se mettre à danser une ronde endiablée. C'est donc là l'inspiration fantastique de Shakespeare qui est illustrée par ce texte où vous voyez poindre un des premiers moments où Gautier s'intéresse à ce personnage de Falstaff dont il partageait la corpulence.
Je ne savais penser de ce que je voyais, mais ce qui me restait à voir était encore bien plus extraordinaire. Un des portraits, le plus ancien de tous, celui d'un gros joufflu à barbe grise, ressemblant à s'y méprendre à l'idée que je me suis faite du vieux Sir John Falstaff, sorti en grimaçant la tête de son cadre et après de grands efforts ayant fait passer ses épaules et son ventre rebondi entre les ais étroits de la bordure, sauta lourdement par terre. Il n'eut pas plus tôt pris haleine qu'il tira de la poche de son pourpoint une clé d'une petitesse remarquable, il souffla dedans pour s'assurer si la ferrure était bien nette et il l'appliqua à tous les cadres les uns après les autres. Et de tous les cadres s'élargirent de façon à laisser passer aisément les figures qu'ils renfermaient. Petits abbés poupins, douairières sèches et jaunes, magistrats à l'air grave ensevelis dans de grandes robes noires, petits maîtres en bas de soie, en culotte de prunelle, la pointe de l'épée en haut, tous ces personnages présentaient un spectacle si bizarre que, malgré ma frayeur, je ne pus m'empêcher de rire. Ces dignes personnages s'assirent, la cafetière sauta légèrement sur la table, ils prirent le café dans des tasses du Japon blanches et bleues, qui accoururent spontanément de dessus un secrétaire, chacune d'elles munie d'un morceau de sucre et d'une petite cuillère d'argent. Quand le café fut pris, tasse, cafetière et cuillère disparurent à la fois. Et la conversation commença, certes la plus curieuse que j'ai jamais ouïe, car aucun de ces étranges causeurs ne regardait l'autre en parlant. Ils avaient tous les yeux fixés sur la pendule. Enfin minuit sonna, ils se mettent à danser. Mais ils avaient beau faire, l'orchestre les devançait toujours de trois ou quatre notes. L'alouette chanta, une lueur pâle se joua sur les rideaux. Aussitôt qu'Angela parut, elle se leva précipitamment, me fit un geste d'adieu et après quelques pas poussa un cri et tomba de sa hauteur. Saisi d'effroi, je m'élançai pour la relever. Mon sang se fige, rien que d'y penser. Je ne trouvais que la cafetière brisée en mille morceaux.
Gautier va aussi participer à l'écriture d'une pièce qui s'appelle Falstaff, et qui a donc Falstaff comme héros. C'est le début d'une nouvelle carrière pour ce personnage qui était considéré jusqu'à présent comme un personnage secondaire et qui devient un personnage principal. Cette pièce, c'est la pièce écrite par Paul Meurice et Auguste Vacry, qui ne sont certes pas des auteurs majeurs, mais qui sont des très proches amis de Victor Hugo. C'est la garde rapprochée de Victor Hugo. Ils sont aussi tous les deux dramaturges. Paul Meurice, qui a été le fondateur de la maison Victor Hugo, que vous pouvez visiter Place des Vosges, et qui fut l'exécuteur testamentaire de Victor Hugo, a écrit 4 adaptations de Shakespeare. La première, c'est Falstaff, en 1842. Il l'a fait jouer à l'Odéon. La deuxième, c'est Capitaine Parole, une adaptation de Tout est bien qui finit bien. La troisième, c'est un Hamlet avec Dumas, dont on a parlé hier. Et la quatrième, beaucoup plus tardivement, en 1886, c'est Le songe d'une nuit d'été, en 1886, donc à l'Odéon, sur une musique de Mendelssohn. Alors cette première pièce, Falstaff, Gautier écrit un prologue. un prologue qu'on va vous lire, dont on va vous lire un extrait. Alors, c'est un prologue à la manière des prologues shakespeariens, ou des prologues des auteurs du Théâtre du Siècle d'Or, ou de Mérimée, c'est-à-dire il s'agit ici de capter la bienveillance du public en lui demandant de pardonner les fautes de l'auteur, en l'occurrence les incongruités ou les trivialités. Il est prononcé par l'acteur qui jouait le rôle de Falstaff, Louis Monrose, qui se présente au public en disant d'abord « Beau sexe, sexe laid, jeunesse et vous vieillesse, ne sifflez pas encore, je ne suis pas la pièce ». Et il se présente pour être ce qu'il est, c'est-à-dire celui qui va interpréter le personnage de Falstaff, et demande au public classique, philistin, bourgeois, effarouché, de ne pas trop s'effrayer.
Tout à l'heure, changeant de costume et de rôle, je représenterai John Falstaff, un fier drôle. Mes compagnons sont là, derrière le rideau, un tas de chenapans qui n'ont jamais bu d'eau. Tout prêt, tout habillé, fardé jusqu'aux oreilles, mais pâlissant de peur sous leur teinte vermeille. Car chacun sait que l'autre est un affreux gredin que l'on a dédaigné de pendre par dédain. Tous les vices en fleurs bourgeonnent sur leur trône. Ils sont un peu filous, énormément ivrognes, très poltrons, très hableurs, à cela près charmants. Mais que vous semblera de pareil garnement, homme de ce temps-ci, vous, spectateurs honnêtes, qui rentrez de bonne heure et qui payez vos dettes, pour dérider le spleen d'humour, l'humour hasard de tout. Anglais de leur terroir, ils ont gardé le goût, et sans être gênés par les rimes françaises, les coudes sur la table, ils vont prendre leurs aises. Vous les excuserez s'ils ne sont pas parfaits. Après tout, c'est ainsi que Shakespeare les a faits. De son vaste cerveau m'élançant d'un seul jet, j'apparus tout à coup riant, vermeil, énorme, et le Bacchus du Nord s'incarna sous ma forme. C'est fort bien, John Falstaff, mais que dit la morale? Une telle conduite est un affreux scandale. Public, rassure-toi, toujours au dénouement, pour des gueux comme nous, paraît le châtiment. Attends-le sans colère et souffre que je rentre pour me rougir le nez et mettre mon faux ventre.
Alors vous le voyez, pour Gautier, Falstaff est un personnage sympathique, au fond un personnage irrévérencieux. Et à ce titre devant être admiré, puisqu'il fait tomber les préjugés des hommes. Mais Falstaff est un personnage pour les romantiques assez complexe. Hein. Il y a le Falstaff truculent qu'aime Gautier, mais pour Hugo, c'est une autre interprétation du personnage. Pour Hugo, Falstaff, c'est l'incarnation de la bassesse humaine, hein, dans ce qu'elle a de vraiment de plus vil. Et c'est ce qu'il explique dans son William Shakespeare, ce grand livre consacré à Shakespeare qu'il écrit pendant l'exil et où il rapproche Shakespeare d'un grand ancêtre, Shakespeare l'Ancien, Échille, et où il prévoit, où il l'appelle de ses voeux, un Shakespeare d'aujourd'hui, et tout le monde comprend en lisant le livre que il ne nomme pas le Shakespeare d'aujourd'hui, mais tout le monde voit bien qu'il pense à lui. Alors voici cette autre version, hein, cette vision tout à fait basse et triviale de Falstaff, à l'opposé de celle de Gautier.
Shakespeare dans la philosophie va parfois plus avant qu'Homère. Au-delà de Priam, il y a Lear. Pleurer l'ingratitude est pire que pleurer la mort. La difformité tyran ne suffit pas à ce philosophe. Il lui faut aussi la difformité valet. Et il a créé Falstaff. La dynastie du bon sens, inaugurée dans Panurge, continuée dans Sancho Panza, tourne à mal et avorte dans Falstaff. L'écueil de cette sagesse-là, en effet, c'est la bassesse. Sancho Panza, adhérent à l'âne, fait corps avec l'ignorance. Falstaff, glouton, poltron, féroce, immonde, face et panse humaine terminée en brute, marche sur les quatre pattes de la turpitude. Falstaff est le centaure du porc.
Alors cette expression « centaure du port » n'a pas du tout plu au poète anglais Swinburne, qui a réagi contre ce jugement de Hugo. Il s'élève contre cette expression. Il faut dire que la revue satirique Punch l'avait surnommé, lui qui s'appelait Swinburne, « Swinburne, né port ». Alors il propose une démonstration où il montre que, tout au contraire du chemin de dégradation que montre Hugo de Panurge à Sancho à Falstaff, en réalité, selon lui, c'est une élévation qui va de Panurge, qui n'est capable d'aimer que lui-même, à Sancho, capable d'aimer autrui et d'en souffrir, et à Falstaff, certes, obéissant à des désirs brutaux et grossiers, mais aussi esprit fin, et capable d'un amour complexe pour son prince. Alors, je le disais tout à l'heure, la fortune de Falstaff est grande au XIXe siècle et au XXe siècle. Il devient un personnage principal, finalement, de nombreuses œuvres, en passant par le film d'Orson Welles et jusqu'à la pièce toute récente de Valère Novarina, qui nous fait l'honneur d'être présent dans cette salle, et qui lui a consacré une pièce, donc Falstaff, F-A-L-S-T-A-F-E, qui est une réécriture du Henri IV. Cette pièce a été créée le 24 février 1976 au Théâtre du Gymnase à Marseille, dans une mise en scène de Marcel Maréchal, et on a pu la revoir récemment, en mars 2008, au Théâtre National de Chaillot, dans une mise en scène de Claude Buchwald. Alors, le Falstaff de Novarina, comme celui des romantiques, retourne finalement les accusations d'immoralité portées contre lui, contre la corruption du monde, corruption politique, sociale, morale, judiciaire du monde, avec une grande verve et une grande faconde. Alors, cette faconde, il la revendique d'ailleurs, puisque le prince lui demande « Qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre, Falstaff ?» À quoi Falstaff répond « Plusieurs sacs de mots ». Alors, vous allez entendre un tel sac de mots dans cette scène. Alors, cette scène qui se passe sur le champ de bataille. Donc, vous vous souvenez que dans Henri IV, le roi qui souhaite mettre fin à la guerre civile a fort affaire avec ses grands seigneurs. Il se désole de la faiblesse de caractère de son propre fils, dont Falstaff est l'acolyte, et il est agacé par les menées du prince, du jeune Percy, qui est un vaillant jeune homme, qu'il admire, mais qu'il agace, notamment parce qu'il ne veut pas lui livrer ses prisonniers. Inversement, Henri ne veut pas, le roi ne veut pas verser la rançon pour Mortimer, proche de Percy, et donc Percy mène une révolte. Et la scène que nous allons voir se passe au moment, justement, d'une bataille consécutive à cette révolte. On a d'un côté Falstaff et ses soldats, qui présentent ses soldats au prince. Ça, c'est dans la première partie. Vous allez entendre avec quel verbe il parle avec ses soldats et avec quelle mauvaise langue shakespearienne il parle, une mauvaise langue shakespearienne que Valère Novarina s'approprie et retravaille, amoureux, comme vous le connaissez, de la puissance évocatoire du langage. Puis dans un deuxième temps, après une petite coupure, on aura une scène où Falstaff contrefait le mort par poltronnerie. Vous savez que ce motif de contrefaire le mort est un motif récurrent dans le théâtre de Valère Novarina.
Soldats de ma troupe, j'ai honte de vous! Chargé de trouver 150 soldats, je ne recrute que des fils de propriétaires, gros fermiers fiancés avec des noces, tout un lot de veaux gras bien douillets, bien cossus, craignant l'arquebuse comme des pégases au prix du plomb, fuyant les clairons comme l'épée du diable, des mangeurs de rillettes avec du cœur au ventre gros comme une tête d'épingle. Sitôt appelés, ils se rachètent du service et nous payent gras pour rester à la maison, finir tranquillement leur tartine! Voilà pourquoi toute ma compagnie se compose maintenant d'une meute d'enseignes, caporaux, officiers, sous-officiers et soldats pouilleux comme des jobets, d'eux, comme des gardiens de port dressés à l'eau de vaisselle, rien que des infirmes, des manchots, des albinos et des daltoniens. Caporaux, officiers, sous-officiers, soldats de ma troupe, rougissez! Aubergistes en faillite! Valet, évadé, palefrenier, ivrogne, membre de ma compagnie, vous êtes l'ami des sans-emploi, fruit du chômage, ce chancre dont la vermine fleurit pendant les pêtres longues et qui nous ronge nos sociétés tranquilles. Jamais dans toute l'histoire, jamais vu pareille brochette d'épouvantail. J'ai déchargé les potences. J'ai mobilisé les cadavres. Arrêtez de marcher en écartant les jambes comme si vous aviez des fers aux pattes. Soldats dégueniers, régiment de lambeaux, je vous sors les trois quarts du cachot. Où est la chemise? Où est la chemise? Trois moitiés de chemise sur toute la compagnie. La demi, c'est deux drapeaux sans manches agrafés ensemble et rescapés du front. L'entière, nous en avons réquisitionné la moitié sur le corps de la femme d'un aubergiste qui récalcitrait. Peu importe, juillet est chaud, du linge vous en trouverons bien assez par-dessus les buissons.
Cher mode de bain, c'est à qui cette grappe de ressuscité, dit le prince.
À moi, ce sont mes hommes.
Jamais vu des oiseaux pareils, tu as réquisitionné un hôpital.
Bah, ils sont bien assez bons pour danser au bout d'une pique. C'est de la chair à canon, Harry, de la chair à canon. Une fois tombés, ils rempliront les tombes tout aussi bien que les autres. Des mortels, mon cher, de simples mortels. À Londres, on s'est souvent sorti de l'auberge, ici on n'échappe pas au coup de fusil. On m'a donné la vie, je l'entretiens. Évitons la gloire subite. Hola, à qui ai-je l'honneur? Sir Walter Blunt? Vous voilà raide. Honneur à vous. Dans le grand trou des morts, encore un que le vent de l'histoire latrine a poussé. Mes hommes, je les ai conduits dans un coin où ils se sont fait rapidement poivrer. Trois survivants sur 150, trois rescapés qui quittent l'armée bien qualifiée, mutilés de guerre, bons pour mendier jusqu'à la fin.
Alors là, échauffouré, Falstaff tombe, frappé par Douglas, l'ami de Percy. Le prince tue Percy, puis se retourne et découvre Falstaff à terre.
Oh ! Vieux compagnon, tant de chair n'a pas pu garder un peu de vie. Pauvre Jack, adieu. La perte d'un meilleur que toi me ferait moins de peine. Dans cette mêlée de sang, la mort a frappé le plus estimable. Elle n'a pas abattu de cerf plus gras. Jack, je te ferai embaumer. Repose jusque-là dans ton sang près du noble Percy.
M'embaumer ? Empaille-moi ! Saint-Jean, l'obstacle, s'il était grand contre faire le mort, sinon ce dragon foufouille des Écossais m'aurait donné mon compte. Boisson, couvert, service compris. J'ai simulé la mort pour conserver la vie. Qui est simulateur ? Moi ou le mort ? Le mort, pas moi. C'est le cadavre qui fait semblant. Cadavre, tu nous imites mal, nous les vivants, puisqu'il te manque tout l'essentiel, la vie. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Morbleu, j'ai peur que de cette poudre à canon de Percy, tout mort qu'il est. Et s'il simulait lui aussi qu'il aille se relever ? Sûr qu'il serait le plus solide des deux qui ressuscite ? Falstaff, il te faut confirmer ce décès. Nous dirons que c'est nous-mêmes qui l'avons personnellement toxi. Oh, tu fais de mort ! Pas de témoin ? C'est bien. Approchez-vous, mon garçon. Vous pouvez avoir toute confiance dans les soins du docteur Falstaff. Il le connaît. Messieurs, aucun doute possible, c'est un décès. Ce bourre de sanglier ne fera plus peur aux enfants.
Alors, assurément, de tous les personnages shakespeariens, le grotesque qui a le plus inspiré les romantiques, c'est Falstaff. Mais il y a aussi un principe du grotesque qui a inspiré les romantiques et qui a inspiré des créations de personnages originaux. Et ce principe, c'est celui qui voit dans le monstre du sublime, hein, comme Richard, par exemple. Alors, Hugo a travaillé avec pour beaucoup de personnages selon ce principe. Des personnages de monstres moraux, comme Lucrèce Borgia, par exemple, qu'on joue beaucoup cette année. Il y a quatre mises en scène de Lucrèce Borgia, je le disais hier, cette année, qui est un monstre moral, mais qui devient sublime par son amour maternel. Et puis, il y a aussi les monstres physiques, comme Quasimodo, comme Gwynplaine, qui sont à la fois grotesques et sublimes, et dans ces personnages, il y a même une sorte de réversibilité du grotesque et du sublime. Dans le cas de Quasimodo, et on va en entendre le portrait dans Notre-Dame de Paris en 1831, ce personnage de fou, là encore, puisqu'il est élu pape des fous, ce modèle du fou, du bouffon, est inspiré de Shakespeare, est sublime, parce qu'il est grotesque.
L'acclamation fut unanime.
On se précipita vers la chapelle. On en fit sortir en triomphe le bienheureux pape des fous. Mais c'est alors que la surprise et l'admiration furent à leur comble. La grimace était son visage. Ou plutôt, toute sa personne était une grimace. Une grosse tête hérissée de cheveux roux, entre les deux épaules une bosse énorme dont le contre-coup se faisait sentir par devant. Un système de cuisses et de jambes si étrangement fourvoyées qu'elles ne pouvaient se toucher que par les genoux et vues de face ressemblaient à 200-300 fossiles qui se rejoignent par la poignée. De larges pieds, des mains monstrueuses et avec toute cette difformité, je ne sais quelle allure redoutable de vigueur, d'agilité et de courage. Étrange exception à la règle éternelle qui veut que la force comme la beauté résulte de l'harmonie. Tel était le pape des fous. Le pape que les poulets fous venaient de se donner. On eût dit un géant brisé et mal ressoudé. Quand cette espèce de cyclope parut sur le seuil de la chapelle, immobile, trapu et presque aussi large que haut, à la perfection de sa laideur, la populace le reconnut sur le champ et s'écria d'une voix « C'est Quasimodo, le sonneur de cloche, c'est Quasimodo, le bossu de Notre-Dame, Quasimodo le borgne !»
Il arrive que le grotesque et le sublime s'entrepoignent dans un seul corps. Il arrive au moins aussi fréquemment que grotesque et sublime se superposent, se répondent au cours d'une même scène, au cours d'une même histoire. Et pas seulement dans le genre théâtral. On vient de donner un exemple emprunté au genre romanesque. Dumas n'a pas été en reste. Dumas, très prolifique romancier, a lui aussi su recueillir la leçon shakespearienne de la combinaison de l'horrible, du trivial et du sublime. Nous n'avions que l'embarras du choix pour extraire un passage des œuvres romanesques, de l'océan romanesque de Dumas et collaborateurs. On aurait pu, par exemple, vous faire lire le massacre de Jean et Corneille de Witz dans La Tulipe Noire, qui finissent hachés menus en petits morceaux et vendus au détail par la populace. Le rapprochement avec Titus Andronicus aurait été immédiat. Mais vous savez que Patrice Chéreau devait monter un Shakespeare cette saison, que en ce moment même, comme il vous plaira, devait être joué à Berthier ces jours-ci. Alors, à titre d'hommage aussi à Patrice Chéreau, nous avons plutôt choisi de vous offrir un passage de la Reine Margot qui date de 1844, un passage où les échos sont peut-être moins nets, mais je crois vous distinguerez tout de même plus que de simples souvenirs de Richard III, de Titus, de Henri VI, et aussi au passage, pourquoi pas, du baron de Nucingen de Balzac. Ça, c'est une autre histoire.
Tout à coup, le bruit des pas se rapprocha. Les vitres du premier étage s'illuminèrent de reflets pareils à ceux d'un incendie. La fenêtre sur laquelle le duc qui avait tant de fois levé les yeux s'ouvrit, ou plutôt vola en éclats, et un homme au visage pâle et au cou blanc tout souillé de sang apparut sur le balcon. « Bem !» cria le duc. « Enfin, c'est toi, eh bien, eh bien !»« Voilà, voilà !» répondit froidement l'Allemand qui, se baissant, se releva presque aussitôt en paraissant soulever un poids considérable. « Mais les autres !» demanda impatiemment le duc. « Les autres, où sont-ils ?»« Les autres, ils achèvent les autres. »« Et toi, toi, qu'as-tu fait ?»« Moi, faut aller, fois, régulez-vous un peu. » Le duc fit un pas en arrière. En ce moment, on put distinguer l'objet que Ben attirait à lui d'un si puissant effort. C'était le cadavre d'un vieillard. Il le souleva au-dessus du balcon, le balança un instant dans le vide et le jeta aux pieds de son maître. Le bruit sourd de la chute, les flots de sang qui jaillirent du corps et diaprèrent au loin le pavé, frappèrent d'épouvante jusqu'au duc lui-même. Mais ce sentiment dura peu et la curiosité fit que chacun s'avança de quelques pas et que la lueur d'un flambeau vint trembler sur la victime. On distingua alors une barbe blanche, un visage vénérable et des mains raidies par la mort. « Ah, te voilà donc, Gaspard !» dit le duc de Guise triomphant. « Tu as fait assassiner mon père, je le venge. » et il osa poser le pied sur la poitrine du héros protestant. Mais aussitôt, les yeux du mourant s'ouvrirent avec effort, sa main sanglante et mutilée se crispa une dernière fois, et l'amiral, sans sortir de son immobilité, dit au sacrilège d'une voix sépulcrale, « Henri de Guise, un jour aussi tu sentiras sur ta poitrine le pied d'un assassin. Je n'ai pas tué ton père, sois maudit. » Le duc, pâle et tremblant malgré lui, sentit un frisson de glace courir par tout son corps. Il passa la main sur son front comme pour en chasser la vision lugubre. Le duc releva son épée avec un geste de résolution désespérée. « Eh bien, mon sire, lui dit Ben, êtes-vous content ?»« Oui, mon brave, oui, répliqua Henri, car tu as vengé. » « Le duc François, n'est-ce pas ?»« La religion, reprit Henri d'une voix sourde. » Et maintenant, continua-t-il en se retournant vers les Suisses, les soldats et les bourgeois qui encombraient la cour et la rue. « À l'œuvre, mes amis, à l'œuvre !»« Eh, bonjour, monsieur de Ben, dit alors Coconas, s'approchant avec une sorte d'admiration de l'Allemand qui, toujours sur le balcon, essuyait tranquillement son épée. « C'est donc vous qui l'avez expédié ?» cria la Hurière en extase. « Comment avez-vous fait ça, mon digne gentilhomme ?» Oh, bien simplement, il a vendu du puits, il a rouvert son porte, et moi, il y a passé mon rapier dans le corps à lui, mais ce n'est pas le doute. Je crois que les Téligny ont dit, je l'entends crier. En ce moment, en effet, quelques cris de détresse qui semblaient poussés par une voix de femme se firent entendre. Des reflets rougeâtres illuminèrent une des deux ailes formant galerie. On aperçut deux hommes qui fuyaient, poursuivis par une longue file de massacreurs. Une arquebusade tua l'un, l'autre trouva sur son chemin une fenêtre ouverte, et sans mesurer la hauteur, sans s'inquiéter des ennemis qui l'attendaient en bas, il sauta intrépidement dans la cour. « Tuez ! Tuez !» crièrent les assassins en voyant leurs victimes prêtes à leur échapper.
Alors pour continuer dans ce style de mélange, on cite assez rarement Shakespeare parmi les sources de Madame Bovary, et pourtant Flaubert le lit et le relit. Dans une lettre de 1846, il parle du seul homme qui puisse remplacer tous les autres, mon vieux Shakespeare, que je vais recommencer d'un bout à l'autre, et ne quitter cette fois que quand les pages m'en seront restées au doigt. Quand je lis Shakespeare, je deviens plus grand, plus intelligent et plus pur. En janvier 1852, il annonce à Louis Collet qu'il fait tous les jours 2 heures de grec et je commence à labourer mon Shakespeare assez droit. Dans 2 ou 3 mois, je le lirai presque couramment. Il le cite fréquemment pendant cette période, dans sa correspondance, pendant les années où il travaille à son roman. « Je viens de finir le Périclès de Shakespeare. C'est atrocement difficile et prodigieusement gaillard. Il y a des scènes de bordel où ces dames et des messieurs parlent un langage peu académique. C'est agréablement bourré de plaisanteries obscènes. » Ou encore, dans cette lettre de juin 1853.
« Je porterai moi-même demain matin cette lettre à la poste. Il faut que j'aille à Rouen pour un enterrement, celui de Madame Poucher, la femme d'un médecin morte avant-hier dans la rue, où elle est tombée de cheval près de son mari, frappée d'apoplexie. Quoique je ne sois guère sensible au malheur d'autrui, je le suis à celui-là. Le pauvre homme est complètement sourd et peu gai naturellement. Il aimait beaucoup cette femme. L'abandon qu'il va avoir comme le déchirement qu'il a eu sera atroce. Bouillet qui demeure en face d'eux a vu son cadavre ramené en fiacre et le fils qui descendait la mer un mouchoir sur la figure. Au même moment où elle entrait ainsi chez elle, les pieds devant, un commissionnaire apportait une botte de fleurs qu'elle avait commandée le matin. Oh Shakespeare, il y a de l'égoïsme dans le fond de toutes nos commisérations. Comme il faut du reste profiter de tout, je suis sûr que ce sera demain d'un dramatique très sombre et que ce pauvre savant sera lamentable. Je trouverai là peut-être des choses pour ma Bovary. Cette exploitation à laquelle je vais me livrer et qui semblerait odieuse si on en faisait la confidence, qu'a-t-elle donc de mauvais ? J'espère faire couler des larmes aux autres avec ces larmes d'un seul, passer ensuite à la chimie du style. Mais les miens seront d'un ordre de sentiments supérieur. Aucun intérêt ne les provoquera, et il faut que mon bonhomme, c'est un médecin aussi, il faut que mon bonhomme vous émeuve pour tous les veufs.
Alors les notations shakespeariennes sont manifestes, par exemple, dans la palette de tons et de contrastes de la mort d'Emma.
Charles montra la lettre. C'était de l'arsenic. Eh bien, reprit Homais, il faudrait en faire l'analyse. Car il savait qu'il faut, dans tous les empoisonnements, faire une analyse. Et l'autre, qui ne comprenait pas, répondit, « Ah, faites, sauvez-la !» Elle en avait fini, songeait-elle, avec toutes les trahisons, les bassesses et les innombrables convoitises qui la torturaient. Elle ne haïssait personne, maintenant. Une confusion de crépuscules s'abattait en sa pensée et de tous les bruits de la terre, Emma n'entendait plus que l'intermittente lamentation de ce pauvre cœur, douce et indistincte, comme le dernier écho d'une symphonie qui s'éloigne. « Amenez-moi la petite, » dit-elle en se soulevant du coude. « Tu n'es pas plus mal, n'est-ce pas ?» demanda Charles. « Non, non. » L'enfant arriva sur le bras de sa bonne dans sa longue chemise de nuit, d'où sortaient ses pieds nus, sérieuse et presque rêvante encore. Elle considérait avec étonnement la chambre tout en désordre et clignait des yeux éblouis par les flambeaux qui brûlaient sur les meubles. « J'ai peur, » dit la petite en se reculant. Emma prit sa main pour la baiser. Elle se débattait. « Assez qu'on l'emmène !» s'écria Charles, qui sanglotait dans l'alcôve. Puis les symptômes s'arrêtèrent un moment. Elle paraissait moins agitée. Et à chaque parole insignifiante, à chaque souffle de sa poitrine un peu plus calme, il reprenait espoir. Enfin, lorsque Canivet entra, il se jeta dans ses bras en pleurant. « Ah, c'est vous, merci. Vous êtes bon, mais tout va mieux. Tenez, regardez-la. » Le confrère ne fut nullement de cette opinion. Et n'y allant pas, comme il le disait lui-même, par quatre chemins, il prescrivit de l'émétique afin de dégager complètement l'estomac.
Alors, une fois administré le traitement, le pharmacien emmène les médecins déjeuner chez lui, où il leur offre plats roboratifs et potions.
On envoya bien vite prendre des pigeons au Lion d'Or, tout ce qu'il y avait de côtelettes à la boucherie, de la crème chez Tuvache, des œufs chez Lestiboudois. Et l'apothicaire aidait lui-même au préparatif, tandis que Madame Homais disait en tirant les cordons de sa camisole, « Vous ferez excuse, monsieur, car dans notre malheureux pays, du moment qu'on n'est pas prévenu la veille, les verres à pâte souffla Homais. Au moins, si nous étions à la ville, nous aurions la ressource des pieds farcis. Tais-toi, à table, docteur. » Il jugea bon, après les premiers morceaux, de fournir quelques détails sur la catastrophe. Nous avons eu d'abord un sentiment de siccité au pharynx, et puis des douleurs intolérables à l'épigastre. Hein, super purgation. Comment s'est-elle donc empoisonnée? Je l'ignore, docteur. Et même, je ne sais pas trop où elle a pu se procurer cet acide arsénieux.
Nous avons parlé de Dumas, romancier. Nous avons croisé Hugo à plus d'un titre. Donc, le Hugo romancier. Il n'était évidemment pas les seuls. Balzac, Stendhal étaient aussi des lecteurs attentifs de... du grand Shakespeare, mais pour conclure cette soirée, nous avons plutôt choisi de nous attarder sur quelques cas moins connus. Trois que je peux vous nommer tout de suite et sur lesquels nous reviendrons, Stendhal, Barbey d'Orvilly et Renan. Le dernier est une petite surprise, le tout dernier. Mais d'abord Stendhal. Plutôt que de vous lire un extrait du Père Goriot et de le rapprocher du Roi Lear,
on lira la semaine prochaine.
Voilà, plus. Nous nous sommes arrêtés cette semaine à Lamiel. Pourquoi Lamiel? Parce que dans Lamiel, qui est le dernier chantier romanesque de Stendhal, sur lequel il travaillait lorsqu'il est mort, en 1842, passe la silhouette d'un curieux docteur bossu, le docteur sans fin. Ce docteur infini monte un cheval qui est un cheval fameux, le fameux Mouton. Et le docteur sans fin est un curieux mélange, peut-être, de Richard III et du Falstaff des Joyeuses Commères.
Eh, ne voilà-t-il pas notre aimable docteur à cheval sur le fameux Mouton ? S'écria l'une des laveuses. Eh, ce pauvre Mouton à double charge, il faut qu'il porte monsieur le docteur et sa bosse. Il n'est pas mince, reprit la voisine. Prenez garde à la bosse, docteur, elle peut tomber, rouler jusqu'en bas et nous écraser, nous autres, pauvres laveuses. Canaille, canaille. « Canaille infâme !» s'écria le docteur entre ses dents. « Infâme canaille que ce peuple a !»« Et dire que je ne prends jamais un sou de tous ces coquins-là quand la Providence me venge en leur envoyant quelques bonnes maladies. »« Taisez-vous, les filles !» cria le docteur en descendant les zigzags plus lentement qu'il n'aurait voulu. « Quel redoublement d'allégresse parmi les laveuses si son cheval mouton eût glissé !»« Taisez-vous, les filles! Lavez votre linge !»« Prenez garde, docteur, ne vous laissez pas tomber. Si mouton vous jette par terre, nous n'en ferons ni une ni deux !» « Nous vous volons votre bosse. Et moi, que pourrais-je vous voler? En tout cas, ce ne sera pas votre vertu. Il y a de beaux jours qu'elle court les champs. Vous avez souvent des bosses, vous, mais c'est pas dans le dos.
Étonnamment, Stendhal, dans ses dernières pages, semble retrouver un désir de théâtre, curieusement. Parce que tout Lamiel est traversé comme ça, est tissé de dialogues qui font la matière romanesque. Après Stendhal, Barbet d'Orvilly, qui dans une vieille maîtresse, va s'inspirer du personnage de Richard III. Dans une vieille maîtresse, dans la préface, il va parler du personnage de Richard III, et dans une vieille maîtresse, il va s'en inspirer moins explicitement. Commençons par la préface d'une vieille maîtresse qui date de 1851, et où d'ailleurs, curieusement, Barbet d'Orvilly commet une erreur très très fréquente sur l'acte 1, scène 2 de Richard III, la fameuse scène, la scène extraordinaire entre Lady Anne et Richard. C'est la scène où Richard entre en scène en récapitulant les conditions, les obstacles qu'il lui reste à franchir pour accéder enfin au trône. L'un de ces obstacles, c'est qu'il lui faut absolument épouser Lady Anne. Elle est un marchepied indispensable. Le problème, c'est que, il y a tout de même un petit problème, c'est pas seulement la difformité de Richard qui a un bras desséché, qui a une bosse, entre autres inconvénients purement physiques. Il se trouve que Richard a aussi assassiné le mari et le beau-père de Lady Anne. Et que Lady Anne est justement là, sur le chemin, en train d'enterrer son beau-père, qui est là, exposé, à vue, dans son cercueil. Et pourtant, il va bien falloir interrompre le convoi funèbre et persuader Lady Anne tout de suite sur le champ de l'épouser. C'est une scène brillantissime. Elle est inoubliable, mais l'erreur qu'on commet fréquemment lorsqu'on a vu la pièce, plutôt qu'on l'a... Enfin, quand on l'a vue, c'est très très clair. Quand on la lit, quand on la feuillette simplement, et là, sans doute Barbet en avait-il une connaissance livresque, on a tendance à croire que le cadavre dans le cercueil est le cadavre du mari, et non pas le cadavre du beau-père.
Le catholicisme n'a rien de prude, de bégueule, de pédant, d'inquiet. Il laisse cela aux vertus fausses, au puritanisme tondu. Le catholicisme aime les arts et accepte sans trembler leurs audaces. Il admet leur passion et leur peinture, parce qu'il sait qu'on peut tirer des enseignements même quand l'artiste lui-même ne les tire pas. Qu'on peut en tirer des enseignements. Le catholicisme a même permis de peindre le vice et l'erreur dans leurs faits et gestes et de les peindre ressemblants. Il ne coupe point les ailes au génie quand génie il y a. Il n'eût point empêché Shakespeare d'écrire cette sublime scène qui ouvre Richard III dans laquelle la femme désolée qui suit le cercueil de son mari, empoisonnée par son frère, après avoir vomi des imprécations épouvantables contre l'assassin, finit par lui donner sa bague d'épouse et par s'abandonner à son faux et incestueux amour. C'est abominable. C'est affreux. Les niais disent même improbable, parce que ce hideux changement du cœur d'une femme a lieu dans la courte durée d'une scène. Ce qui est selon moi une vérité de plus. Oui, c'est abominable et affreux, mais c'est beau de vérité humaine, profondément, cruellement, effroyablement beau. Et la vérité et la beauté, en quelque genre qu'elles soient, ne sont point retranchées ni abolies par le catholicisme, qui est la vérité absolue. Et remarquez bien, Shakespeare ne dogmatise pas. Il expose. Il ne dit pas ou ne fait pas dire au spectateur « Richard III a raison, cette femme qu'il séduit sur le corps chaud de son mari assassiné a raison de se laisser séduire par le beau-frère assassin, le voilà roi ». Non, il dit « Cela est ». Et avec la superbe impassibilité de l'artiste qui est quelquefois impassible, il le fait voir, et d'une façon si puissante que le cœur s'en tord dans la poitrine et que le cerveau en est frappé comme d'une charge d'électricité foudroyante.
Cette impassibilité de l'artiste chez Barbet, c'est aussi l'impassibilité du criminel. Barbet, on le sait, s'est intéressé de très près au motif qui lui a d'ailleurs fourni le titre d'une des nouvelles de son plus beau recueil, « Le bonheur dans le crime ». Ce bonheur dans le crime, cette indifférence à l'égard de tout jugement moral, On le retrouve dans une vieille maîtresse dont une tirade est nettement inspirée du personnage de Richard III. Il s'agit des considérations d'une vieille dame qui expose à sa petite fille, future épouse du héros, Monsieur de Marigny, quelle est l'attitude morale réelle de son époux à l'égard de son futur époux à l'égard des femmes. Tout le problème d'une vieille maîtresse tient à ce que Monsieur de Marigny, qui a eu une jeunesse plutôt dissolue, et qui épouse donc la pure et chaste Ermengarde, avec une vieille maîtresse, la redoutable Valigny, qui se fait la gageure de le reconquérir malgré tout, y compris à travers la destruction du mariage.
Eh bien, qu'avez-vous de plus, cher ami? Des faits positifs? Voyons-les. Quoi? Mon petit-fils de choix est un affreux, Monsieur Lovelace, parce qu'il a eu quelques femmes qui vont à la messe à Saint-Thomas d'Aquin avec un paroissien de velours fermé d'or. Ces manèges ne m'en imposent point. Il passe pour très éloquent auprès des femmes. Il les magnétise avec des flatteries adorables ou des impertinences qu'il a l'art de doubler de tendresse. Il a des paroles obscures et chatoyantes qui font rêver. Mais toute cette éloquence, tous ces entortillements de serpents câlins aux pieds des femmes ne sont que l'expression de son orgueil et de son mépris pour nous. Il veut dominer, despotiser les âmes et trouver dans les relations de l'amour une influence que les hommes qu'il blesse lui contestent et que les circonstances ne lui ont pas donnée sur eux.
Nous avions d'abord pensé conclure cette soirée sur des extraits d'un texte très peu connu de Renan, un texte tiré de ses drames philosophiques qu'il écrit entre 1878 et 1886 et qu'il publie 2 ans plus tard. Parmi ces 4 drames philosophiques, on s'en trouve un intitulé « Caliban », où Renan, très modestement, décide d'écrire la suite de la tempête. C'est une suite particulièrement intéressante, à plus d'un titre. D'abord, c'est un texte peu connu. Il n'est peut-être pas si théâtral que ça, mais il est brillant par les idées qu'il soulève. En particulier, comme vous allez le voir, Caliban achève ici une trajectoire que Shakespeare esquisse dans sa tempête. Caliban accède à la civilisation et vous allez voir ce qu'il en fait.
La scène se passe sur la place de Milan. Grande foule, conversation animée, Caliban va et vient dans la foule et parle avec animation. Voix nombreuses, vive Caliban, vive le chef du peuple. Pour le moment, il ne s'agit pas de parler. L'homme qui vous a fait tout ce mal est méchant, retors, inouï. Il s'agit de le prendre et de l'empêcher de recommencer. Ne croyez pas que ce soit facile. Il tient à son service des esprits aussi malfaisants que lui et surtout un damné joueur de violon dont les ruses sont incroyables. Déjà une fois, j'avais trouvé moyen de lui river un clou dans la tête. J'en suais déjà de plaisir et paf, tout fut déjoué. Bon. Défiez-vous, c'est le plus difficile. C'est plus difficile que vous ne pensez. Confiez-moi l'ordre et la marche de l'affaire. Il est distrait. Parfois, il ne pense à rien. Il faut le surprendre. Je vous conduirai par des portes et des couloirs que je connais. L'essentiel est de mettre d'abord la main sur ces livres d'enfer. Ah, je les hais. Ils ont été les instruments de mon esclavage. Il faut les prendre, les brûler. Un autre pourrait s'en servir. Guerre aux livres, ce sont les pires ennemis du peuple. Ceux qui les possèdent ont des pouvoirs sur leurs semblables. L'homme qui sait le latin commande aux autres hommes. Abat le latin. Donc, avant tout, prenez-lui ses livres. Là est le secret de sa force. C'est par là qu'il règne sur les esprits. Cassez-lui aussi ses cornues de verre et tout son outillage. Sans ses livres, il sera comme nous. Quand il sera comme nous, la besogne sera faite aux 3/4. Il est vieux et faible de corps, sa garde ne compte pas. L'argent qu'il devait lui donner, il l'employait en livres et en cornues de verre. Vous pourrez très facilement ou l'étrangler ou le mettre dans une cage pour mourir de faim ou le forcer à se faire moine. Ah, quand vous aurez brûlé ces livres, vous pourrez être généreux. Mais d'ici là, pas de pitié.
Applaudissements universels. Comme vous le voyez, Caliban ne semble pas avoir fait beaucoup de progrès depuis qu'il a quitté l'île de Prospero. Il appelle au coup d'État, il veut être calife à la place du calife. Et comme chez Shakespeare, le premier geste auquel il invite ses complices, c'est la destruction des livres. Mais cette fois-ci, Caliban va parvenir à ses fins. Et là, il y aura une petite surprise.
Seul étendu sur le lit. Non, je n'aurais pas cru qu'il fût si doux de régner. N'aurais pas cru surtout qu'on mûrit si vite en régnant. Dans le voyage de la place communale à ce palais, j'ai plus changé que dans tout le reste de ma vie. 10 heures se sont écoulées depuis que le peuple m'a porté ici, sur ses bras, et je ne me reconnais pas. J'étais injuste pour Prospero. L'esclavage m'avait aigri, mais maintenant que je couche dans son lit, je le juge comme on se juge entre confrères. Il avait du bon, et en beaucoup de choses, je suis disposé à l'imiter. Quoi de plus odieux, par exemple, que ces inopportunes impatiences du peuple, ce défilé de pétitions impossibles dont ils viennent de m'accabler? Quelle avidité de jouir! Quelle prétention subversive! Pour moi, mon parti est pris, je ne me laisserai pas envahir par des gens qui s'imaginent, en se plaçant au-delà de moi, m'entraîner avec eux dans l'abîme. Je trouve que c'est une belle fin.
Mais c'est une très belle fin, alors.
Un gouvernement doit résister. Je résisterai. Après tout, les gens établis et moi, nous avons des intérêts communs. Je suis établi comme eux. Il faut que cela dure. La propriété est le lest d'une société. Je me sens de la sympathie pour les propriétaires. Et puis, outre l'utile, il y a l'éclat. L'éclat est nécessaire. J'ai eu des torts, je veux les réparer. À la fête d'hier au soir, j'étais jaloux car je n'en étais pas. Eh bien, les fêtes, les beaux-arts, les palais, les cours sont l'ornement de la vie. Je favoriserai les artistes. Les hommes de lettres donnent la gloire, je ne les négligerai pas. Quel était le centre de cette belle assemblée d'hier au soir? C'était Imbéria. Je courtiserai Imbéria. Le but suprême de ma vie sera Imbéria. Si j'arrivais à lui plaire, oh non, c'est trop. Qui sait pourtant? Peut-être. Il soupire. Si je pouvais être aimé, ce serait bon et heureux. Un monde nouveau s'ouvre à moi. Le bien existe, il ne m'est pas interdit. Je l'entrevois pour la première fois. Prospero parlait toujours de faire le bonheur de l'humanité. Ce n'est pas lui qui était destiné à le faire. Hein? Si par hasard c'était moi, il s'endort.
Il illustre à merveille ce Caliban, le prince, le vieux précepte de Machiavel. Les conditions nécessaires pour conquérir le pouvoir sont diamétralement opposées aux conditions nécessaires pour le conserver. Les livres qu'il brûle sont les livres qu'il subventionnera une fois arrivé à ses fins. Et évidemment, toute ressemblance avec des dictatures contemporaines n'est pas forcément due au hasard, mais plutôt à l'acuité de l'analyse politique de Renan, qui anticipe ici de quasiment 50 ans sur les premières réflexions sociologiques sur les effets de la propagande, par exemple. Et donc, la petite surprise que je vous annonçais pour la fin, nous avons terminé par une galerie de criminels plus ou moins épicés. Voici enfin, en forme d'autoportrait, un dernier criminel qui n'est peut-être pas le moins intéressant de tous. Il s'agit du poète lui-même et il s'agit du portrait dont Victor Hugo adresse à son modèle dans ses contemplations en 1856.
Shakespeare songe, loin du Versailles éclatant, des buis taillés, des ifs peignés où l'on en...
C'est la fatigue.
C'est dommage parce que mais c'est pas grave. C'est la vie, comme dit Shakespeare. Shakespeare songe, loin du Versailles éclatant, des buis taillés, des ifs peignés, où l'on entend gémir la tragédie et pleurer et prolixe. Il contemple la foule avec son regard fixe et toute la forêt frissonne devant lui. Pâle, il marche au-dedans de lui-même ébloui. Il va, farouche, fauve et comme une crinière, secouant sur sa tête un haillon de lumière. Son crâne dont on voit la lueur du dehors. Le monde tout entier passe à travers son crible. Il tient toute la vie en son poignet terrible. Il fait sortir de l'homme un sanglot surhumain. Dans ce génie étrange où l'on perd son chemin comme dans une mer, notre esprit parfois sombre, nous sentons frémissant dans son théâtre sombre passer sur nous le vent de sa bouche soufflant et ses doigts nous ouvrir et nous fouiller le flanc. Jamais il ne recule, il est géant, il dompte, Richard III, Léopard, Caliban, Mastodonte. L'idéal est le vin que verse ce Bacchus. Les sujets monstrueux qu'il a pris et vaincu râlent autour de lui, splendides ou difformes. Il étreint Lyre, Brutus, Hamlet, êtres énormes, Capulet, Montaigu, César, et tour à tour, les striges dans le bois, le spectre sur la tour, et même après Échille, effarant Melpomène, sinistre, ayant aux mains des lambeaux d'âme humaine, de la chair d'Othello, des restes de Macbeth, dans son œuvre du drame effrayant l'alphabet, il se repose. Ainsi, le noir lion des jungles s'endort dans l'antre immense avec du sang aux ongles.
Shakespeare, ici, est, au fond, lui-même le criminel ultime. Il est le criminel ultime parce qu'il est un fauve qui s'éloigne dans la forêt que nous sommes, contre les buis taillés et les ifs peignés du classicisme où l'on entend gémir la tragédie. Il tourne le regard vers la forêt qui est la nôtre et la forêt où il marche et une forêt où il nous chasse et où il nous prend, car nous sommes ses proies, comme si Shakespeare lui-même, sous les yeux de Hugo, était lui-même devenu nature, était lui-même devenu élément comme une mer, était lui-même d'abord farouche fauve, était lui-même devenu fauve, voire sphinx dans ce poème, noir lion des jungles avec les restent les lambeaux de ses victimes analysés sur ses ongles. C'est peut-être ce poème-là qui a inspiré à Lautréamont l'une de ses notations les plus fulgurantes dans ses poésies et sur laquelle je terminerai. Chaque fois que je relis Shakespeare, il me semble que je déchiquette la cervelle d'un jaguar.
C'est la transition pour la semaine prochaine où nous parlerons justement de ces personnages qui ont du sang sur les ongles.